Père éternel, Père, je viens t'adorer ce matin. Père, je viens dans ta présence comme un enfant qui a besoin d'être rassuré dans son cœur. J'ai besoin que tu me rassures, Père, et que tu sois là ce matin au milieu de nous par ton esprit et que ta présence soit manifeste, Seigneur, dans nos cœurs. Que cette parole que nous allons ouvrir, ces préceptes de ta parole, Seigneur, ne soient pas seulement pour nous que de la doctrine et des idées, des concepts, mais que ce soit vérité et vie, Seigneur, dans nos cœurs. Père, nous sommes assemblés comme ta famille, comme tes enfants, choisis, bénis, chéris, Seigneur. Et nous voulons t'entendre nous parler. Parce que nous croyons que tu es ici par ton esprit d'une manière, Seigneur, surnaturelle, inexplicable. J'entendais, Père, cette semaine, Denise Bombardier dire qu'elle ne croyait pas, mais qu'elle enviait ceux qui croient. Qu'elle aimerait croire, Seigneur. Je te prie pour cette femme à qui tu as donné une telle intelligence, une telle vivacité d'esprit, Seigneur. Accorde-lui la grâce de la foi. Et Seigneur, ça m'amenait à être tellement reconnaissant de ce que tu m'as donné cette foi. Tu m'as permis de résoudre ces questions, ces doutes dans mon cœur pour placer ma foi en toi et découvrir Jésus-Christ et découvrir à travers Christ mon Père céleste qui veille sur moi. Père, tu sais combien j'ai à cœur cette série, combien je suis convaincu que nous avons besoin de te découvrir, Papa, comme un bon Père qui veille sur nous. Et j'ai cette conviction que cette assemblée a besoin de grandir dans sa compréhension et dans son expérience de ce que tu es pour nous, de ce que tu représentes pour nous, combien tu veilles sur nous, Seigneur. Père, je te prie de transformer ce message, ce partage, ces paroles. Viens les transformer dans une réalité spirituelle dans nos cœurs ce matin. Et que ceux parmi nous qui marchent comme des enfants abandonnés cessent de le faire. Cessent de le faire, mais commencent à vivre la paix d'un enfant qui a un Père céleste qui veille sur lui. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Alors, la semaine dernière, on a commencé une courte série. J'ai vraiment sur mon cœur, je l'ai dit encore dans la prière. J'aimerais ça vous encourager, si vous n'avez pas pu être parmi nous la semaine dernière, ou peut-être vous êtes en visite, et donc vous n'avez pas eu la première prédication de la série, j'aimerais vous encourager à aller l'écouter, soit sur, vous allez trouver sur iTunes, à travers le podcasting avec Église Espoir, ou sur le site de l'Église, ou prendre une copie à l'arrière. Mais vraiment, c'est le point de départ. Vraiment, c'est le point de départ. Ça fait toute la vie, toute la différence dans la vie d'un enfant de savoir qu'il a un père, qu'il a des parents, qu'il a un foyer qui veille sur lui. Ça fait la différence entre un enfant qui va être en guerre avec la terre entière, qui va être en relation de méfiance avec la terre entière, avec tous les gens qu'il va croiser, et un enfant qui va avoir confiance dans la vie, dans ce que la vie lui réserve. Vous le savez, parce que la plupart d'entre vous, vous avez des enfants ou vous avez été enfants et vous comprenez ces choses-là. Maintenant, cette série-là vient d'une conviction de mon cœur à travers mes discussions avec plusieurs d'entre vous, qu'un grand nombre d'entre vous, marchez jour après jour comme si vous étiez des enfants abandonnés, comme si vous étiez des orphelins qui n'avaient pas de père qui veille sur vous. Et lorsque je parle avec vous de votre foi, lorsque je parle avec vous de vos épreuves, lorsque je parle avec vous de vos perspectives d'avenir, lorsque je parle avec vous de vos inquiétudes, ce que j'entends, ce n'est pas vos mots, mais c'est ça que j'entends. C'est Yannick, je suis seul. Je suis seul, j'ai personne qui veille sur moi, Yannick. Vous ne le dites pas, vous n'oseriez jamais le dire probablement. Parce que ça ne rentre pas dans notre théologie, hein? Ça ne rentre pas dans ce qui est correct de dire. On est des chrétiens, on n'est pas seuls. Dieu est là. Alléluia, Dieu est là. Parce que que j'entends les cœurs, c'est pas ça que les cœurs disent. Dieu n'est pas là, je suis seul et je suis abandonné. Et si on veut grandir ensemble dans notre vie de prière, dans notre marche chrétienne, et si on veut avancer, on doit grandir dans cette vérité fondamentale. Je l'ai mentionné la semaine dernière, G.I. Packer, un auteur que j'apprécie énormément. Voici comment il a résumé toute cette question que j'aborde avec vous à travers cette courte série. Le nom chrétien de Dieu, c'est Papa. Voici comment les chrétiens parlent à Dieu. Ils s'adressent à Dieu en disant « Père ». Bien sûr, nous nous adressons à Dieu en disant « Dieu ». On s'adresse à Dieu en disant « Seigneur ». On s'adresse à Dieu en disant « Seigneur Jésus ». Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle puissance dans la révélation de la personne de Dieu. Et Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler cette dimension de la relation entre Dieu et les hommes. Ce Père qui est un bon Père, qui veut être un Père pour nous. Personne, à travers toute l'histoire de l'humanité, n'a la capacité de nous révéler Dieu, notre Père céleste, comme le Fils de Dieu. Parce que lui seul a connu cette intimité avec le Père. Cherchez-le partout, dans quelque religion que ce soit, dans quelque philosophie que ce soit, dans quelque lecture que ce soit. Si vous ne rencontrez pas Dieu le Père à travers la personne de Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais connaître véritablement celui qui désire être votre Père céleste. Parce que lui seul a quitté cette intimité extraordinaire qu'il y avait entre le Père et le Fils pour venir marcher au milieu de nous. Quel que soit le prophète que vous allez écouter, quelle que soit la religion que vous allez essayer de suivre, seul Jésus-Christ peut vous faire connaître le Père, parce qu'il est le Fils unique de Dieu. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 11, alors qu'il est en train de prier. Voici ce qu'il dit, je vous le lis rapidement. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Il est en train de s'adresser à son Père. « Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Si vous désirez connaître votre Père céleste, il va falloir que le Fils de Dieu vienne vous le révéler. Par une œuvre puissante de son esprit qu'il vous conduise dans cette vérité. La semaine dernière, on a vu ensemble combien Jésus-Christ avait une relation intime avec le Père. Et j'ai essayé d'exposer vraiment l'idée que Christ avait une relation de Fils. D'accord? On consacre souvent beaucoup d'énergie à exalter la personne de Christ. Et c'est bien, on doit le faire, mais on peut perdre de vue cette réalité, de cette relation de père-fils qu'il y a là. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et dans sa relation comme fils, il y a certaines caractéristiques d'une relation de dépendance, de soumission qui sont là. Et on le voit à travers sa marche. Maintenant, Jésus est venu pour nous faire connaître le Père afin que son Père puisse devenir notre Père. Et tous les fruits, toutes les grâces, toutes les bénédictions que Jésus puisait dans cette intimité avec son Père, quand vous regardez son assurance, sa paix, son repos, sa confiance, sa capacité à traverser la plus grande épreuve qu'un être humain a traversée et traversera jamais dans toute l'histoire de l'humanité, la crucifixion où il y a eu cette séparation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, sa capacité à franchir ces obstacles-là, tout ça découle d'une relation intime avec son Père. Christ avait confiance en son Père. Il était sécure dans cette intimité avec son Père. Et je vous ai partagé cela parce que c'est dans cette relation-là que Christ veut nous faire entrer. Il est venu pour nous offrir l'adoption. Pendant toute la série, ce que je vais chercher à exposer, c'est la doctrine de l'adoption. Comment Jésus désire que tous les hommes puissent devenir eux aussi des enfants du Père et entrer dans cette famille, devenir des frères et sœurs de Jésus-Christ, même s'il est notre Seigneur. Jésus est venu pour nous révéler le cœur du Père et pour nous ouvrir la voie, le chemin vers le Père, afin que nous puissions dire à notre tour, « Mon Père, mon Papa », et que je puisse avancer dans la vie non pas comme un orphelin, esselé, toujours inquiet, troublé, insécure, sans confident, sans confiance pour l'éternité, mais au contraire, que je puisse avancer comme Christ, serein, paisible, sachant que mon bon Père veille sur moi. La semaine dernière, je vous ai parlé de la relation que Jésus avait avec son Père ici-bas. Cette semaine, je veux vous parler du cœur du Père. Je veux vous parler de l'amour du Père. Et je plaide avec vous pour que vous ouvriez vos cœurs. Certains d'entre vous, je suis en train de vous engager dans un chemin qui vous trouble. Parce que je suis en train de vous demander d'avoir un cœur d'enfant. Et depuis longtemps, vous avez décidé que vous vous preniez en main et que vous n'auriez pas un cœur d'enfant. Vous allez veiller sur vous-même parce que personne d'autre va le faire. Pour votre plus grand malheur. Alors, je sais que je vous amène sur un terrain inconfortable, certains d'entre vous. Je plaide avec vous pour que vous ouvriez vos cœurs à Dieu le Père. Écoutez ce matin combien il vous aime et combien il veut prendre soin de vous. Quelle est la plus belle parole qu'un être humain pourrait dire à quelqu'un d'autre, qu'une personne pourrait dire à quelqu'un. Moi, je pense que c'est une parole toute sainte, une parole extraordinairement puissante. Je t'aime. Je t'aime. Bien senti, sincère, réel. Je pense que c'est la parole la plus puissante qu'un être humain peut dire à quelqu'un d'autre. Le serrer cette semaine. Une situation de conflit, une situation difficile, une situation où il y a des tensions. Et sans sarcasme, sans ironie, sans être baveux. À un moment bien choisi, prenez le temps de dire, tu sais quoi? Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de parole plus puissante que ça. Et c'est une grâce extraordinaire. Vous savez pourquoi? C'est simple. C'est qu'on a tellement besoin de savoir que nous sommes aimés. Qu'au-delà de tout ce que je suis capable de faire, mon potentiel, ce que je pourrais accomplir, ce que je pourrais réaliser, j'ai besoin de savoir qu'il y a une relation, il y a un lien affectif qui dépasse tout ça. Je t'aime. Le serrer cette semaine. C'est encore plus puissant lorsqu'on est capable de le prononcer sans attendre en retour. Pas tout de suite, en tout cas. Quand tu es capable de t'avancer vers quelqu'un et tu sais que la réplique, ça va être « Oui, ben moi, non. » Ou quelque chose du genre. Et quand vous êtes capable de venir déposer cette parole-là en vous laissant cracher au visage, si je peux dire, en vous laissant rejeter, oh, comme c'est puissant et comme c'est bénissant. Pas de la manipulation, c'est une grâce. Voilà comment le Père vous a aimé. Parce qu'il vous a aimé alors que vous le rejetiez. Il m'a aimé alors que j'en avais rien à cirer de lui. Et la dernière personne que je voulais voir venir dans ma vie, c'était lui. Il m'a aimé. Il a aimé l'humanité. Comprendre l'amour du Père doit commencer par cette compréhension de son amour pour nous. Vous ne pourrez jamais comprendre Dieu si vous ne saisissez pas son amour pour vous. Ça va être un bourreau, ça va être un despote, ça va être un être tout-puissant, ça va être un être machiavélique qui a abandonné la terre à tous ses maux, qui laisse des millions de personnes mourir de faim à chaque année. Il va être tout ça si vous ne connaissez pas son amour. Voici comment vous allez concevoir Dieu, et je vous le dis, vous ne connaissez pas Dieu si c'est votre conception de Dieu. pour connaître le Père, vous devez connaître son amour. Mais plus que ça, vous devez connaître la mesure de son amour. Vous devez connaître la mesure de son amour pour connaître l'amour du Père. À travers toute la série, en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, ce que je cherche à faire, c'est exposer la doctrine de l'adoption. On va le voir encore plus la semaine prochaine ensemble. Mais dans le fond, c'est ça, on est en train de parler d'adoption. On est en train de parler d'un Père qui voulait nous adopter. Et le paradoxe avec l'histoire de Dieu, avec cette histoire d'adoption à l'intérieur des Écritures, c'est que on n'est pas en train de parler d'adoption dans un contexte d'une famille qui vivait un grand vide. Une famille qui vivait un grand vide, qui était sans enfant, qui était là, qui était bien, mais qui était vide. Et lorsqu'on pense à l'adoption, généralement, c'est à ça qu'on pense. On pense à des foyers qui peuvent pas nécessairement avoir un enfant. Puis c'est génial, c'est extraordinaire de pouvoir accueillir, de pouvoir adopter un enfant, l'accueillir dans son foyer, devenir mon enfant. On va parler de ça davantage la semaine prochaine. Mais vous voyez, généralement, on pense à l'adoption dans ce contexte-là. Le grand paradoxe dans l'histoire de Dieu et de l'adoption que Dieu veut faire avec nous, c'est que c'est vraiment pas ça le contexte. On n'est pas en train de parler d'une famille où il y avait un grand vide parce qu'il n'y avait pas d'enfant qui était là. On est en train de parler d'un foyer qui est absolument parfait et comblé en lui-même. On est en train de parler d'un foyer où il y avait une intimité, une communion parfaite et sereine. Il n'y avait pas de vide et de besoin dans ce foyer. Le Père était en communion avec le Fils et avec l'Esprit de toute éternité et n'avait aucun besoin d'ajouter à la famille. C'est important de saisir cela pour comprendre la mesure de l'amour du Père envers nous. Il n'avait pas besoin de nous ajouter à sa famille. En fait, parce que je connais quelques-uns d'entre vous un peu personnellement, je sais qu'il a décidé qu'il allait se causer bien des problèmes en vous embarquant dans la famille. Vous pourriez me dire la même chose. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que l'harmonie était parfaite, c'était complet. En fait, j'oserais dire que le problème était différent. C'est plutôt le genre de famille où il y a tellement, tellement, tellement d'amour qu'on ne peut pas en rester là. Il faut absolument que ça déborde sur l'extérieur. Et il y a de ces foyers qui sont tellement comblés qu'ils se disent, il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui a besoin d'expérimenter ça. Et donc, tout va bien, tout est là, la famille est là, la famille est complète. Mais il y a de l'amour à revendre, il y a de l'amour à donner. Et on va aller chercher des orphelins qui ont besoin de vivre ça. C'est ça l'histoire de Dieu et l'histoire de l'adoption que Dieu veut faire avec nous. Ce n'est pas une famille qui avait besoin. C'est une famille qui débordait d'amour. Si ça s'arrêtait là, ça tiendrait la route. Mais ça va plus loin que ça. Parce que dans ce foyer-là, il y avait un seul fils. Il y avait un fils unique. Il y avait un fils unique avec lequel le Père avait une communion parfaite, intime, une complicité extraordinaire. Plus belle que ce que nous rêvons tous d'avoir avec nos enfants. Il y avait un fils unique et ce père-là a décidé, pour ajouter d'autres enfants à la famille, qu'il allait donner son fils. Qu'il allait donner son fils en sacrifice afin que d'autres puissent être ajoutés à la famille. C'est ce que Dieu dit dans Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père a pris la décision de donner son unique. Ce n'est pas un modèle d'adoption très, très conventionnel, vous l'avouerez. Généralement, l'adoption, c'est on ajoute, on ne fait pas un échange. Ce qui est triste, et je l'entends souvent, ce qui est triste, c'est que nous sommes tentés de rationaliser le geste que le Père a posé en nous disant « Ah oui, mais c'était Dieu. » C'était Dieu, et donc en donnant son Fils, il savait qu'il le retrouverait. Le sacrifice est pas aussi grand que si moi je donnais mon enfant et que s'il ne me revenait pas. Et si c'est ça que vous pensez, il y a un aspect de l'Évangile que vous n'avez pas encore saisi. Il y a une profondeur de l'amour de Dieu que vous n'avez pas encore saisi. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas chrétien, ne partez pas avec ça. Mais n'est-ce pas, Paul priait pour que on grandisse dans notre compréhension, de la manière qu'on saisit toute la profondeur et la beauté de l'amour de Dieu. Si c'est ce que vous pensez, vous vous dites, écoute, c'est Dieu, il savait que ça allait durer quelques instants, et donc c'est pour ça qu'il pouvait faire la gymnastique mentale, de dire, faisons ce sacrifice-là, on va créer une coupure, mais il va me revenir, puis ça va être beau. Vous ne saisissez vraiment pas ce qui s'est passé à la croix, dans la communion entre le Père et le Fils. Dans Matthieu 3, 17, voici ce que le Père dit concernant le Fils. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père prend le temps de nous dire, alors que le Fils est envoyé, et c'est dans un commun accord, Christ est entré dans cette mission-là, mais le Père prend le temps de nous dire, « Écoutez-moi bien, celui que vous allez crucifier bientôt, tout mon cœur lui est attaché. Tout mon cœur est attaché à cet enfant chéri-là. C'est mon fils bien-aimé. J'ai placé tout mon cœur. » Voyez-vous, il n'y a aucune rationalisation, il n'y a aucune coupure mentale pour dire, il faut que je me détache de toi, mon fils, parce que bientôt, ils vont te crucifier. Et il faut que je me détache de toi, ça va faire bien trop mal. N'est-ce pas, on fait ça? On fait ça? Cette semaine, dans les médias, on a vu une scène, hein? Avec cette dame qui doit quitter le pays et laisser ses enfants ici. Vous dites, mais comment on peut vivre ça humainement? Croyez-vous que cette femme-là a pris la décision de se détacher émotivement de ses enfants et de se dire, bon, mais je dois renoncer, je dois vivre comme si j'étais sans enfant? Mais voyons donc. Mais Dieu, lui, qui est parfait, qui est grand, qui est amour, ah, lui, il va rationaliser, il va se détacher. Non! Non! Il prend le temps de nous dire que ce Fils qui est envoyé, qui va être crucifié, il a placé toute son affection en lui. Il est chéri. Et il va rester attaché à lui jusqu'au moment où, sur la croix, il va le maudire. Parce que Christ va devenir péché. Et il va y avoir cette cassure dans l'éternité à ce moment-là sur la croix. C'est la mesure à laquelle Dieu vous aime. C'est la mesure à laquelle votre Père céleste, qui était dans cette famille parfaite, qui n'avait pas besoin d'adopter des enfants, vous a aimé, m'a aimé. Il a envoyé son Fils en qui il avait placé toute son affection, avec lequel il avait une communion parfaite depuis toute éternité. Et voilà le prix qu'il était prêt à payer afin que nous soyons ajoutés à sa famille. Celui en qui il a placé toute son affection serait conduit sur la croix et dans cet instant maudit, le Fils serait péché. Et une cassure dans une communion éternelle allait se produire là. C'est ce que Christ a crié lorsqu'il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On ne mesurera jamais vraiment ce qui s'est passé là. Parce que nous ne connaissons pas une communion telle. Un jour, on va s'approcher de ça lorsqu'on va le voir en face. Un jour, on va s'approcher d'une vraie compréhension. Personne ne vous aimera jamais comme Dieu le Père. Et toute votre vision de votre Père céleste doit reposer sur cette compréhension de la mesure de son amour pour vous. Votre adoption lui a coûté énormément cher. Énormément cher. Le sacrifice n'est pas mesurable parce que nous ne comprenons pas cette communion qu'il y avait dans cette famille sainte et parfaite. Voilà la mesure de l'amour que le Père avait pour vous. Un deuxième élément que je veux souligner avec vous, c'est c'est qu'il y aura toujours de l'espace dans son cœur pour vous pardonner. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Luc 15. Luc chapitre 15. Les versets 10 à 32. Je vais faire quelque chose ce matin pour tous les brillants exégètes de cette église. Je vais sortir un texte de son contexte un petit peu. Suivez-moi, je pense que ça tient la route. D'accord? Dans Luc 15, Jésus raconte une parabole pour nous parler de ce qui se passe au ciel lorsque quelqu'un se repent et vient à Dieu. Mais cette parabole-là nous parle d'un Père. Et je crois que Jésus est en train de nous parler vraiment du cœur de Dieu et de son attitude. Lorsque vous pensez à Dieu le Père, je ne suis pas certain que vous pensez à un Père qui veut se garrocher dans vos bras. Quand vous pensez à votre Père céleste, je ne suis pas certain que vous pensez à quelqu'un qui est fou de vous. Là, j'ai déjà quelques brillants théologiens qui sont en train de me dire « Wow, Yannick, tu es en train de centrer ça sur l'homme. » Mais vous ne comprenez pas c'est quoi l'amour passionnel de Dieu pour nous? Luc 15, je vous lis quelques versets. À partir du verset 10, je commence juste avant la parabole. « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Jésus illustre ça, entre autres, par cette parabole. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Un gnochon. C'est correct? On va le présenter comme ça. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers, de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Voyez-vous, ce fils-là n'attend plus de son père une relation chérie père-fils, parce qu'il saisit très bien qu'il en est totalement indigne. En se comportant de la manière qu'il s'est comporté, il a renoncé à honorer son père comme il le devait. Et il ne s'attend pas à cette relation-là. Il veut simplement venir se placer sous la protection de son père, sachant que même la condition de serviteur, d'employé, d'ouvrier, de manœuvre dans la maison de son père serait meilleure que sa condition actuelle. Jésus veut illustrer le cœur de Dieu, ce qui se passe au ciel quand un enfant revient à la maison. Comme il était encore loin au verset 20, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Dans votre vision de Dieu le Père, on est tenté de voir le Père comme cet être distant et froid qui châtie ses enfants. Et c'est vrai qu'il châtie ses enfants. Je vais prendre tout un dimanche matin simplement sur le passage d'Hébreu, d'accord? Mais voyez-vous, nous pouvons nous comporter comme le frère qui va bouder le fils insolent. Mais votre Père céleste n'est pas comme ça. Il y aura toujours de l'espace dans son cœur pour vous aimer et vous pardonner lorsque vous revenez à lui. Si vous vous êtes écarté de lui et que vous vous tenez à l'écart parce que votre vision de Dieu, c'est un Dieu qui boude, c'est un Père qui boude et qui châtie à la mesure de vos fautes, vous ne connaissez pas le cœur du Père. Dieu a donné à mon frère et moi une précieuse maman qui nous aime avec un vrai cœur de maman extraordinaire. J'ai déjà partagé à l'Assemblée cette parole-là de ma mère. Mais ça m'a marqué dans les années difficiles où mon cœur n'était pas à Christ. Ma mère m'a répété à plusieurs reprises parce que je multipliais les conneries. Et chaque fois, je savais où je pouvais me tourner pour me sortir du pétrin. Ma mère me répétait et répétait à mon frère, « Les gars, vous ne pourrez jamais faire une stupidité assez grande pour que ma porte ne soit pas ouverte pour vous. » Dieu est comme ça. Ça, c'est votre Père céleste. Vous ne pourrez jamais faire quelque chose de tellement gros que son cœur ne vous sera pas ouvert. Et chaque fois qu'on s'écarte, chaque fois qu'on s'éloigne, il nous attend. Il nous attend. Et dès qu'on commence à revenir, ne serait-ce qu'avec cette attitude du fils prodigue qui dit « Je veux juste être ton serviteur. » Regardez comment Jésus décrit le Père. Il s'élance et il saute sur son enfant. Ému de compassion. Ça, c'est votre Père céleste. C'est celui qui veille sur vous, celui qui veille sur moi. Non seulement il est capable de nous aimer et d'avoir toujours de l'espace dans son cœur, mais le Père nous comprend mieux même que nous nous comprenons nous-mêmes et il comprend notre faiblesse. Tournez avec moi dans le psaume 103. Psaume 103, s'il vous plaît. C'est un psaume absolument extraordinaire et je peux pas m'étendre sur tout le psaume ce matin. Je vais juste attirer votre attention sur deux versets, mais si vous avez besoin de grandir dans votre compréhension de cet amour du Père, lisez le psaume 103 cette semaine dans la prière. Dieu va vous bouleverser, je peux vous l'assurer, Dieu va vous bénir. Moi, je vais attirer votre attention ce matin sur les versets 13 et 14. Voici ce que le psalmiste nous dit concernant Dieu. Psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Nous avons trop souvent cette image que Dieu est saint et est parfait tant et si bien qu'il ne peut pas comprendre nos luttes et nos combats. C'est vrai? Nous avons cette image trop souvent de Dieu qu'il est tellement grand qu'il ne peut pas comprendre nos luttes. Ouais, mais toi, Dieu, on sait bien, c'est facile, t'es saint. T'as même pas le goût de faire les niaiseries que j'ai le goût de faire. Comment tu peux me comprendre? Mais c'est lui qui vous a tricoté. C'est lui qui vous a tricoté, comme me disait maman. Il sait de quoi vous êtes fait. Il comprend les vices, les passions, les combats, les tempêtes qu'il y a dans votre cœur. C'est lui qui vous a tissé. Vous ne pourrez jamais trouver un confident qui va voir ce qui se passe dans votre cœur. Le meilleur de vos confidents, à un certain moment donné, commence à vous regarder, puis vous sentez qu'il commence à dire « Le meilleur de vos amis, à un certain moment donné, commence à vous juger. Mais une seule personne est là avec vous, dans l'intimité de votre cœur, pour comprendre et les détresses, et l'orgueil, et le péché, et les combats, et les pleurs, et les frustrations. Un seul est témoin avec vous dans cette intimité-là, c'est celui qui vous a tissé. Parce qu'il sait de quoi vous êtes formé, c'est lui qui vous a créé. Vous ne trouverez pas un confident et quelqu'un qui va mieux vous comprendre que votre Dieu. Jamais. Jamais. Aussi, le Père connaît tous nos besoins et prend soin de nous. Tournez avec moi dans Matthieu 6. Je sais qu'on se promène dans beaucoup de passages, je vous l'ai dit. Il y a plusieurs prédications de la série qui vont être un petit peu comme ça par sujet où on va survoler différents textes. Dans Matthieu 6. J'ai cité ce passage la semaine dernière. Je veux souligner certains éléments ce matin. Matthieu 6, verset 25. Et je vais vous lire jusqu'au verset 32. C'est Jésus qui parle. On est dans un évangile. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et pourtant, plusieurs d'entre nous passons notre semaine à nous inquiéter du lendemain. Mais si je comprends bien l'image qui m'est donnée ici, ça ressemble un petit peu à ce que je pourrais vivre dans la maison chez nous. Vous savez, on a un gros, gros chien d'attaque, un caniche de 7 livres et quelques, je pense. 6 livres? 10 livres. Un gros killer dog, OK? Fait que, imaginez un instant que le matin, alors que je suis en train de nourrir Sushi, parce qu'elle s'appelle Sushi, le matin, je suis en train de nourrir Sushi, puis mes deux enfants me regarderaient en train de nourrir Sushi et seraient inquiets dans leur cœur de savoir s'il y aurait de la nourriture pour eux aujourd'hui. Parce que vous comprenez, pour Dieu, ses pets puis ses animaux domestiques, c'est tous les animaux de la terre. Et tous les matins, il sort de la nourriture et il les nourrit et en prend soin. Mais nous qui sommes ses enfants, Nous nous comportons lorsque nous nous inquiétons un peu comme si mon fils me disait « Papa, je sais qu'il y en a pour sushi, mais est-ce qu'il va y avoir de la nourriture pour moi? » Maintenant, regardez bien comment est-ce qu'on fonctionne dans notre tête. Regardez bien comment est-ce qu'on raisonne. Certains d'entre vous, vous êtes en train de dire « Oh oui, attends un petit peu, Yannick, il y a plein de monde sur la terre qui meurt de faim. Il y a plein de monde sur la terre qui meurt de faim. » Laissez-moi amener juste un peu d'eau à votre moulin. La majorité des gens sur la terre qui meurent de faim ne sont pas en train de douter de l'existence de Dieu parce qu'ils meurent de faim. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça, même s'ils meurent de faim. C'est les gros, gras, repus occidentaux qui se servent de cet argument-là pour dire « Mais Dieu n'est pas fidèle, il ne prend pas soin de nous. » Avez-vous suivi? Laissez Dieu aller faire la conquête de leur cœur et soyons généreux envers eux. Partageons ce que Dieu nous a donné. Mais cette défaite que nous nous donnons pour ne pas faire confiance à Dieu, est-ce que vraiment vous manquez de nourriture? Si c'est le cas, je vous invite à dîner ce midi. Parce que nous, on en a trop chez nous. On a nourri sushi des enfants, puis il en reste encore. Mais voyez-vous, c'est nous en Occident, repus, gras, comme ça se peut pas. On est en train de regarder là-bas, puis on va se dire, mais Dieu est peut-être pas fidèle en fin de compte. Tu vois, là-bas, il y a des gens qui meurent de faim, donc il prendra peut-être pas soin de moi. Ben, regarde-toi dans le miroir, mon ami. Je pense que tu as la preuve qu'il prend soin de toi. Ces gens-là, eux, croient en Dieu beaucoup plus que nous. Je sais qu'il y a un vrai problème avec la pauvreté dans le monde. Et ça pose des questions difficiles sur Dieu. Définitivement. C'est des bonnes choses à réfléchir. Mais se servir de ça pour ne pas faire confiance à Dieu au quotidien dans la situation où vous êtes, honnêtement, c'est pitoyable. Votre Père sait que vous en avez besoin, frères et sœurs, et il prend soin de vous. Et vous êtes là encore ce matin pour le démontrer. Mais on est là à s'inquiéter tous les jours en se demandant, oui, mais il a nourri sushi ce matin, je ne sais pas s'il va me nourrir, moi. Il va te nourrir, il va prendre soin de toi. Apprends à lui faire confiance. Nos enfants nous font confiance. Ils ne vivent pas ces inquiétudes-là. Et je peux vous dire que je ne suis pas aussi hâte que mon Père Céleste. Notre Père connaît nos besoins et il prend soin de nous et on doit grandir dans cette confiance qu'il prend soin de nous. Deux derniers passages avec vous ce matin. Le Père nous corrige et reprend parce qu'il nous aime. Et ça, c'est le cœur du Père. Tournez dans Hébreux 12, s'il vous plaît. L'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux. Comme je l'ai mentionné, dans quelques semaines, dans trois semaines, on va prendre le temps de regarder tout le passage des versets 3 à 11 beaucoup plus attentivement. Mais je vais quand même l'aborder ce matin très rapidement. Les versets 5 à 7. Hébreux 12, 5. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Mes enfants m'ont dit à quelques reprises que j'étais un papa sévère. Ils ne me connaissent pas encore. Ils n'ont pas fini avec moi. Et pourtant, mes enfants n'ont jamais douté de mon amour pour eux. Et régulièrement, j'ai vérifié avec eux, puis je leur ai dit, « Est-ce que tu crois que je suis en train de faire ça parce que je t'aime? Est-ce que tu sais que je fais ça pour ton bien? » Et à chaque fois, mes enfants m'ont dit, « Oui, je sais, papa. » Voir notre Père Céleste comme un Dieu qui nous châtie avec un cœur détaché de nous, distant de nous, comme si ces corrections qu'il apporte dans nos vies à travers des épreuves, à travers des situations que nous vivons, comme si ces choses-là étaient des actes de cruauté, c'est encore une fois ne pas saisir qu'il est notre Père. Vous avez trop de bonté pour faire ça à vos enfants. Et lorsque vous impliquez des conséquences à vos enfants, c'est parce que vous les aimez. Je pourrais bien sûr dire à mon garçon Bastien un samedi matin, « Aujourd'hui, mon fils, je t'aime. Tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux à partir d'aujourd'hui jusqu'à temps que tu quittes la maison. » Et Bastien, qui a 11 ans, me dirait, « Papa, tu ne m'aimes pas. C'est pour ça que tu agis ainsi. Tu es indifférent. » Frères et sœurs, les corrections de Dieu, les châtiments de Dieu, ce sont des actes d'amour envers vous. On part du point de départ. Il a donné son unique pour que nous entrions dans la famille. À partir de là, tout est guidé par son amour envers nous. Mais plusieurs d'entre vous, vous avancez dans la vie jour après jour comme des enfants abandonnés. Vous avez peur du lendemain, vous êtes insécure, vous avez le cœur inquiet. Un orphelin qui vit seul dans la rue a raison d'être inquiet. C'est sage pour lui d'être inquiet. Il a raison de se demander ce qu'il va manger dans une heure. C'est intelligent de le faire. Il est en guerre contre la terre entière, méfiant, sans confiance en personne. C'est sage pour lui de le faire, parce qu'il n'a personne pour veiller sur lui. C'est sa réalité. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la vôtre. Vous avez un bon Père qui veille sur vous. Et lorsqu'il intervient dans votre vie à travers des corrections, des châtiments, ce sont des gestes de sa bonté. Dieu n'est pas après vous pour vous tester et vous faire exploser. Dieu est après vous parce qu'il vous aime, parce qu'il vous chérit. Mais cela nous demande à chacun d'entre nous de prendre la décision, de faire le choix d'avoir un cœur d'enfant. Et ça, c'est la zone sensible, voyez-vous. Je décide d'avoir un cœur d'enfant, que je vais croire comme un enfant et que je n'aurai pas le contrôle sur tout. Parce que je m'abandonne à mon Père. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne changez, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Mes enfants savent que je les aime. Mes enfants savent que je prends soin d'eux. Mes enfants se couchent le soir en sachant qu'ils sont en sécurité dans la maison. Mes enfants se lèvent le matin en sachant qu'ils vont manger toute la journée. Mes enfants regardent vers l'avenir et lorsqu'ils ont des inquiétudes, ils peuvent en parler avec nous pour qu'on les conseille et qu'on les guide. Mes enfants savent qu'on les aime assez pour les corriger et venir diriger leur cœur afin qu'ils aient un cœur puissant et grand pour faire face à l'avenir. Le Père de Jésus est votre Père si vous avez un cœur d'enfant pour le suivre et pour veiller sur vous. La semaine prochaine, on va parler du processus d'adoption. Père, je veux te bénir de nous avoir donné cette révélation de toi. Cette révélation de ta personne, Seigneur, à travers Jésus, tu nous as fait connaître combien tu veux prendre soin de nous, combien tu nous aimes, combien tu nous chéris, combien tu veux être là pour nous. À travers Jésus, tu nous as fait connaître la mesure de ton amour pour nous, Père. Père, j'ai besoin que tu viennes nous faire grandir. Nous avons besoin que tu viennes nous faire grandir comme assemblée afin que nous avancions dans la vie confiants que nous avons un bon Père qui veille sur nous. Seigneur, nos familles ont besoin de ça. Nos relations ont besoin de ça, Seigneur. Nous souffrons d'inquiétude, de colère, de frustration, de peur. Nous souffrons de poser toutes sortes de gestes insensés parce que nous nous comportons comme si nous étions seuls dans ce monde, au lieu d'avancer paisiblement avec la foi d'un enfant en notre Père qui veille sur nous. Et je te le confesse, Père, comme un péché, comme une faute, parce que tu nous as donné toutes les raisons de croire et de reconnaître que tu nous aimes dans la personne de ton Fils, Jésus-Christ, mort sur cette croix pour nos péchés. Oh, quel acte d'amour plus grand pouvais-tu me donner, mon Père? Que de sortir de ce confort, de cette famille parfaite, de cette harmonie, de cette communion parfaite et éternelle qu'il y avait là, pour envoyer ton Fils et le conduire vers cette cassure dans l'éternité, au moment de sa mort sur la croix, au moment où il a été fait péché pour moi. Père, je t'aime et je sais que tu prends soin de moi. Sois béni. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.